Alors après l'exposition que nous avons visitée, on vous a fait visiter hier sur les dieux romains vénérés à Chartres, on va pénétrer dans les coulisses, quoi, l'envers du décor, qui est celui de la restauration. Parce que ces petits objets ou ces gros objets que vous avez pu admirer à la Maison du Saumon, il faut d'abord les remettre en forme. Et c'est le travail des restauratrices. J'ai à mes côtés deux restauratrices.
Bonjour, Charlotte Hanotte et Marjorie Makeda.
Charlotte et Majorie, vous êtes toutes les deux donc restauratrices. Je vous poserai des questions tout à l'heure, savoir comment on devient restauratrice, parce que moi j'étais persuadé que c'était une spécialisation de l'archéologie, mais pas du tout, c'est un métier à part entière. On est là vraiment dans l'antre de vos fonctions. C'est aux abbayes Saint-Brice à Chartres. Et là, il y a plein d'appareils auxquels je ne comprends rien. Vous allez nous expliquer tout. Mais tout d'abord, en quoi consiste là la restauration? Qui veut répondre à cette question?
Mais alors en fait nous on est restauratrice d'objets archéologiques. On travaille en fait dès la découverte des objets. En fait on intervient pour aider les archéologues qui sont chargés de l'étude du mobilier archéologique à pouvoir faire leurs identifications. Donc c'est une première partie de notre travail, c'est de nettoyer tous ces objets pour études, pour aider les archéologues. Et puis dans un second temps, une fois que le rapport archéologique est rendu au service de l'État, on est parfois amené à réintervenir sur des objets en vue de publications ou d'expositions, comme c'est le cas à la Maison du Saumon en ce moment. Et donc là, on travaille davantage avec une visée esthétique, c'est-à-dire qu'on cherche à réévoquer ce qu'étaient les objets au moment où ils étaient utilisés, donc il y a plusieurs siècles. Et donc là, on essaye, voilà, de remettre en évidence tous les éléments de décor, toutes les petites particularités qui font que ces objets étaient fonctionnels à l'époque, sachant que nous, on ne refait pas du neuf. On ne fait pas de rénovation, on cherche vraiment à réévoquer ce qu'étaient ces objets pour qu'on puisse retrouver leur fonction et voilà ce à quoi ils servaient.
C'est toute justement la différence entre la rénovation et la restauration, quoi.
Ah oui, carrément, la rénovation, c'est déjà aussi ça peut être perçu comme une remise en service. C'est pas le cas de la restauration. La restauration, les petites clochettes ou les fibules, par exemple, comme ça, l'ardillon, en fait, ne fonctionne plus. Enfin, il ne peut ne plus fonctionner. Donc, ça va pas être notre rôle de remettre une lanière de cuir accrochée à une petite fibule. Voilà, nous, en fait, comme a dit Charlotte tout à l'heure, notre but, c'est de permettre l'identification, d'apporter une compréhension, une lisibilité à l'objet. Et voilà, en fait, on est plutôt des travailleurs de l'ombre, en fait.
Ah, dites-moi quand même, vous n'êtes peut-être pas archéologue, mais vous m'avez l'air d'avoir des solides connaissances en histoire.
Alors, on n'est pas archéologue. Après, nous, Charlotte et moi, on fait le choix de travailler au milieu des archéologues, ce n'est pas le cas de tous les restaurateurs, parce que nous avions à cœur justement d'aider les archéologues à faire en sorte de conserver leur mobilier depuis le terrain, sans quoi parfois c'est impossible. En fait, si on ne mène pas cette première intervention de conservation dès le terrain, les objets peuvent être perdus du fait du traumatisme lié à la découverte. Donc voilà, c'était aussi. Et puis je trouve ça, enfin, toutes les deux, on trouve que c'est assez enrichissant de travailler avec d'autres. Ils nous apportent beaucoup en fait en termes d'identification, de connaissances en fait sur les objets, l'étude, et puis plus globalement après sur la connaissance du site, puis de la ville en fait.
Écoutez, je voulais réserver la question pour la fin de l'émission. Je vous la pose maintenant, comment on dit restauratrice alors?
Du coup, il y a plusieurs formations qui existent en France. La formation que nous avons faite, c'est une formation qui se passe à Paris, c'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, il y a une formation en conservation-restauration avec une spécialité mobilier archéologique. Après, il y a une autre formation de reconnaissance nationale, c'est l'INP, l'Institut National du Patrimoine, qui forme aussi les restaurateurs et qui voudraient faire de l'archéologie en prenant la spécialité art du feu. Et puis après, voilà, c'est en mobilier archéologique, ce sont vraiment les deux formations reconnues. Sinon, après, il y a en fonction des autres spécialités, il y a une école à Tours pour la sculpture, une école à Avignon pour les arts graphiques, la peinture. Enfin voilà. Donc c'est, mais en tout cas, en termes d'archéologie, c'est la formation. Les deux formations sont à Paris. Et puis après, il y a une école privée, notre stagiaire actuellement, qui vient de l'école de Condé aussi, qui forme en restauration de céramique archéologique.
On n'accepte pas ces formations aussitôt après le bac, je suppose qu'il faut faire.
Si, aujourd'hui, c'est possible du fait de la réforme en 5 ans, qui est passée il y a quelques années maintenant, oui. La réforme LMD, en fait, licence, master, doctorat. Donc aussi, si, ces formations sont accessibles à partir du bac.
Sachant qu'il y a un concours. Il y a quand même, il y a un concours d'entrée avec une partie sur dossier qui doit être présentée où on vérifie l'habileté manuelle, notamment des candidats, et après une partie avec un entretien avec un jury pour que celui-ci teste les motivations de la personne et le recrute en fonction aussi de son cursus et de sa motivation.
Des connaissances historiques, non ?
Alors, en fait, il y a une formation, il y a un concours pour rentrer en formation, et après, c'est cette formation qui va nous permettre d'acquérir les connaissances dont on aura besoin pour faire notre métier correctement. Sachant qu'il y a vraiment une partie basée sur des connaissances scientifiques, parce que c'est la physico-chimie des matériaux, comprendre comment est-ce qu'on les fabrique, comment est-ce qu'ils s'altèrent, parce que nous, ce dont on a besoin, ce qu'on cherche à endiguer, en fait, ce sont ces phénomènes d'altération. Donc, pour comprendre et pouvoir agir sur ces altérations, on a besoin de savoir comment elles apparaissent, comment elles se manifestent. Donc tout ça, il y a un travail de connaissance scientifique. Et puis après, il y a une partie plus liée aux sciences humaines et à l'utilisation de ces objets-là. Sachant qu'après, nous, effectivement, ce que disait Marjorie tout à l'heure, comme on est entouré d'archéologues, on a aussi la chance de pouvoir acquérir des connaissances au fur et à mesure. Même si nos formations sont terminées depuis longtemps, finalement, c'est des métiers pour lesquels on continue à se former en continu en fonction des découvertes.
Alors là, qu'est-ce que c'est que ces petits objets ? Ils sont dans des petits sachets, et puis il y a toutes sortes d'informations sur des étiquettes.
Oui, alors donc là vous avez un aperçu de petits objets, des petits cuivreux en fait, ce qu'on appelle dans notre petit jargon, mais c'est essentiellement des bronzes ou des laitons, d'où le fait qu'on n'utilise pas l'un ou l'autre des termes, mais plutôt cuivreux. Je les ai sortis des réserves parce qu'en fait il y avait des phénomènes d'altération importante, c'est ce qu'on appelle un phénomène de corrosion active, donc des petits points verts pulvérulents qui apparaissent sur certains objets et qui peut être très dommageable pour l'objet. En fait, ce qu'on appelle il y a un terme spécifique à ça, le cancer du bronze. Je crois que c'est le terme qu'on emploie. Et en fait, ça vient grignoter la matière et à terme, l'objet se transforme en poussière. D'où l'intérêt en fait de mettre un terme à cette altération. Donc, je pratique avec des petits outils.
Alors là, c'est une sorte de microscope, non
c'est... Oui. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une loupe binoculaire. Donc, c'est ce qui permet de grossir en fait, pour voir au plus près de la surface de l'objet. Celle-ci grossit jusqu'à une trentaine de fois. Puis après, j'ai à ma disposition des outils. Alors, vous avez là des scalpels, c'est l'outil phare du restaurateur.
On se croirait dans un cabinet dentaire ou...
Ça ressemble un peu à ça, parce que vous avez aussi une micromeuleuse. Voilà, à côté. Alors, elle peut être accessoirisée avec des polissoirs, mais des meulettes, des fraises diamantées. Vous avez des micro-brossettes. Voilà, je n'arrivais plus à trouver le terme. Donc voilà, tout cet attirail, plus ma connaissance en fait sur la matière, va me permettre de mettre un terme, j'espère, définitif. mais il y a toujours besoin quand même de surveiller, même une fois qu'on est intervenu quand même sur les objets.
Alors, quel est ce petit malade là sous la lampe du microscope ?
Alors ça, c'est une fibule, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Et ça servait à accrocher les deux pans d'un vêtement. Ça s'utilisait beaucoup à l'époque romaine. Donc celle-ci n'est pas entière. L'ardillon, donc voilà, qui est censé normalement être mobile autour de son axe, ne l'est plus. Donc ça servait à... Cet ardillon fermait et fermait de l'autre côté, mais là, je ne vais pas justement faire en sorte qu'il soit mobile. Ce n'est pas du tout mon rôle. Donc moi, je restitue une surface, donc la mise en place des décors, et puis une certaine homogénéité du rendu de surface, en fait. Voilà.
Tout en essayant, évidemment, mais ça, je suppose que vous y excellez, à ne pas abîmer les objets. Est-ce qu'il y a une forme de crainte quand on aborde un...
Il y a forcément une crainte. Après, elle s'estompe un peu quand même au fur et à mesure des années de pratique, puisque on a quand même, on est un peu décomplexé parce qu'on sait qu'on intervient sur des objets qui ont été enfouis quand même pendant plusieurs siècles, qui ont subi de nombreux dommages, parfois des incendies, enfin des certaines catastrophes. Donc nous, quand on les récupère, on est plutôt là en tant que bienfaiteur de manière générale pour les objets, plutôt que personne risquant de les altérer davantage. Donc après, on a toujours une émotion à travailler sur des objets qui ont plusieurs siècles et qui sont fragiles par nature, en fait, maintenant, parce que le métal n'a plus ses propriétés métalliques de souplesse. Enfin, voilà. Donc, on intervient sur des matériaux extrêmement sensibles, on le sait, et on essaye de travailler le plus finement et le plus délicatement possible, sachant que si d'aventure on abîme la matière, on a à notre disposition tout ce qu'il faut en termes de colle ou matériaux de renfort pour réintervenir et faire au mieux et essayer de masquer toutes ces cassures, fissures ou autres.
Donc, quand un objet est découvert, vous arrivez sur le chantier avec un petit sachet, vous le mettez aussi, c'est un gros objet. Non.
Alors, en fait, c'est le travail des archéologues. Les archéologues prélèvent leurs objets sur le terrain. Nous, avec Marjorie, on est parfois amenés à intervenir en renfort, mais c'est extrêmement ponctuel en fonction des difficultés liées à une découverte particulière, un matériau particulièrement fragile ou cassant. Donc là, on peut intervenir sur le terrain. Sinon, il y a des archéologues qui sont formés et sensibilisés à la conservation des différents matériaux et qui savent mettre en place les premiers gestes qui vont permettre aux objets d'arriver ensuite au laboratoire ou au dépôt de manière la plus sécurisée possible.
Alors hier, en visitant l'exposition « Vous n'en croirez pas vos dieux », on a enfin pu voir ce joyau des trouvailles archéologiques à Chartres, qui est les objets du magicien, la cave du magicien. Vous y étiez ?
On n'a pas participé ni l'une ni l'autre à la découverte. On n'a pas eu cette chance-là, mais par contre, on s'est occupé de la restauration des objets, et notamment l'objet, le phare de l'exposition, qui est ce turibulum, ce brûle-encens, qui comporte des inscriptions extrêmement précieuses. Donc il y a eu tout un travail. Là, encore une fois, tout à l'heure, on vous disait, on ne fait pas de la rénovation, on ne cherche pas à remettre à neuf l'objet, ça, c'est pas possible. Il a subi un incendie, il est fortement altéré. Mais par contre, on a la chance d'avoir encore cette surface qui porte ses écritures et qui est extrêmement bien préservée malgré tout. Et donc, tout l'enjeu là pour la restauration, c'était de veiller à ce que cette surface ne s'altère pas davantage. Donc, il y a eu un travail, en fait. On n'a pas fait de comblement. Là, le travail, c'était vraiment de consolider, de préserver cette surface qui, en fait, s'écaille et se soulève de la matrice de l'objet. Et donc, il y a eu un travail de... On infiltre de la résine avec il s'est agi de mettre... On parle de papier japon, mais c'est un petit matériau de renfort provisoire qui veille à maintenir les écailles en place pendant qu'on fait l'infiltration, parce que quand on infiltre une résine, on apporte un solvant. Et malgré tout, il y a quand même il y a une pression, il y a un enjeu au moment de l'apport de ce solvant, puisqu'il risque de solubiliser la matière. Et donc d'où l'utilisation d'un matériau de renfort provisoire pour veiller à ce que le turibulum ne s'écroule pas.
C'est un vrai travail de la haute voltige, non ?
Il y a, en fonction des gestes qu'on entreprend, il y a souvent un moment où on retient un peu notre souffle en se disant « pourvu que j'ai fait le bon choix », sachant qu'on a quand même la connaissance sur la matière et notre expérience qui fait qu'on prend des risques, mais mesurés.
On voit beaucoup de produits là, des petites bouteilles, etc. Là aussi, il faut savoir manier ces produits, j'imagine.
Ah oui, bien sûr. Disons qu'on a une panoplie de petits produits chimiques en plus de nos équipements mécaniques. Alors après, chaque restaurateur a ses produits préférés, on va dire. Et on prend l'habitude, même s'il existe une palette assez large de produits chimiques, de petites colles, de petits solvants, de petites résines, on finit par utiliser un peu, je dis pas un peu toujours les mêmes, parce que... Mais disons qu'après, on connaît en fait les produits qu'on utilise. Donc on sait comment ils réagissent en fonction de température, tel type d'objet, etc. Donc là, vous avez à côté de moi, il y avait quoi ? Il doit y avoir un petit pot de colle qu'on a fabriqué. On fabrique notre colle. On est des petits chimistes. Et donc, on fabrique notre colle. Donc, on a plusieurs, pour le coup, on a vraiment plusieurs résines à notre disposition. C'est essentiellement des résines acryliques auxquelles on peut adjoindre des particules pour fabriquer des petits mastiques. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites fioles. On a des complexants. Alors celui-là, j'en ai un sous la main, mais on en a d'autres dans l'armoire à produits chimiques là-bas. Donc des complexants, en fait, c'est des produits chimiques qui vont agir en complexant, c'est-à-dire en faisant des ponts chimiques avec la matière et enlever les particules. C'est assez sélectif, hein, comme traitement, et enlever les particules qu'on désire voir enlever à la surface des objets, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, j'ai de l'oxyde d'argent à côté de moi. Ça sert à isoler les produits néfastes dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a d'autres techniques, mais celle-ci en est une. Puis voilà, je crois que ma foi, c'est tout. Là, ce que j'ai sous la main.
On en fait finalement aux frontières de la science et d'une sorte de d'artisanat patient, expérimental.
c'est pas de l'expérimental dans le sens où on a auparavant, lors de notre formation, acquis la connaissance exacte d'un point de vue structure chimique. Enfin voilà, les produits qu'on utilise sont des produits qui sont dont on connaît les caractéristiques. Voilà. Après, les dosages, c'est pareil. Hein. Effectivement, au départ, on va dire que la conservation-restauration en archéologie, c'est malgré tout une science qui est effectivement assez jeune, puisqu'on travaille depuis 30 à 40 ans. Ça s'est développé avec l'archéologie, en fait. Le développement de l'archéologie a permis le développement de la restauration des objets archéologiques. Enfin, c'est mené. Mais sinon, en fait, non. Au départ, ce qui était empirique, petit à petit, c'est scientifisé. Enfin, on a normé tout ça. Maintenant, on travaille avec des produits, des dosages qui sont connus, référencés. Mais par contre, il y a toujours une notion d'expérimentation, effectivement, où on ne sait jamais quel objet on va découvrir. Et le problème qu'on rencontre sur un objet n'est pas forcément connu auparavant. Et donc, on avance avec la connaissance des objets. Donc, effectivement, il y a une part de découverte un peu permanente et d'expérimentation dans ce sens-là.
Et quel est votre plus beau souvenir de restauratrice?
Oh,
vous pouvez dire aucun ou tous.
On va dire tous. Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de. Moi, c'est pas forcément une restauration. Ce serait plutôt le traitement des objets qui viennent du terrain. Enfin, ce serait plutôt ça, le traitement des mottes. Ça, il y a un côté découverte. En fait, un prélèvement, quand on va sur le terrain, ça se passait beaucoup il y a l'ouverture du service, il y a une dizaine d'années. Les archéologues, aujourd'hui, on a mis en place des protocoles de ramassage des objets. Donc maintenant, effectivement, ils font les choses tout seuls. Les prélèvements en mottes, ils ont aussi acquis la connaissance à force de devoir faire. Donc,
en fait, qu'est-ce que c'est qu'excuse-moi, un prélèvement en mottes, c'est quoi là?
En fait, un prélèvement en bloc, en mottes. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'un objet est trop altéré pour être sur le terrain, j'entends, hein, soit fissuré, fragmenté, trop fin, on le ramasse pas. On préfère le ramasser avec le sédiment qu'il y a, la terre qu'il y a autour. Donc on va constituer un bloc qui va le supporter et on ramasse tout ce bloc. Et une fois qu'il est ramassé, il arrive ici et après c'est là où on continue à le traiter, mais on a déjà plus de temps parce que la fouille en général, il y a des délais quand même à respecter, il faut finir une zone, en commencer une autre. Donc ici on a quand même plus de temps et s'il y a des, après c'est pas de la restauration, mais enfin c'est pas de la restauration, c'est de la, si ça en fait partie, parce que la restauration c'est toute intervention sur l'objet à partir du moment où on nettoie, qu'on intervient, qu'on colle, ça s'appelle de la restauration, même si elle n'a pas des visées esthétiques. Donc dès qu'à partir du moment où on intervient sur l'objet, même pour des objets qui viennent de terrain, ben on restaure finalement. Et moi, effectivement, si j'ai un ou des objets à retenir, c'est plutôt le traitement de ce type d'objet, l'identification que j'ai pu apporter. Et puis, ouais, ce serait ça. Après, j'ai pas traité d'objets où tous les objets sont intéressants à traiter, en fait.
Oui, en fait, c'est l'émotion associée au traitement de tous ces petits objets qui ont fait le quotidien de gens qui ont disparu depuis des centaines d'années. C'est assez émouvant, parce que finalement, quand on voit ces fibules, on se dit que ce sont des gens qui les ont portées, les bagues, les cure-oreilles qui sont l'ancêtre du coton-tige, une toute petite spatule qu'on insère dans l'oreille pour gratter. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là, des objets qui soit ont traversé les époques et qu'on retrouve aujourd'hui, mais parfois des objets qui faisaient le quotidien des personnes et dont on n'aurait plus l'idée de les utiliser aujourd'hui. Donc c'est ça que moi je trouve émouvant, c'est de retrouver ce quotidien et des objets plus exceptionnels, le turibulum où là effectivement
En fait, c'est la tablette de défiction, par exemple. Pour le coup, c'est moi qui l'ai traitée, alors que le turibulum, c'est Charlotte. C'est un objet qui est sorti il y a très peu de temps de fouille, enfin, il y a 2-3 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait un côté... elle était pliée en deux, les bords étaient recouverts, enfin, comme un petit livre, en fait, et les bords étaient cornés de telle façon à recouvrir. Et on m'a dit, ouvre-la. Là, j'ai fait... Ah! Mais j'y arrivais sans la casser, c'était un peu un challenge en fait. Et puis aussi l'émotion de peut-être trouver des écritures à l'intérieur. Alors, dès que j'ai ouvert et j'ai fait, mais il n'y a rien. Puis après j'ai déplié les deux, je fais, oh, mais il y a quelque chose. Ça c'était, c'était phénoménal en fait. Mais c'était des objets exceptionnels en fait. Ça se pose sur des objets exceptionnels.
Finalement, peut-être qu'on est aussi un peu blasé. C'est mal de dire ça, mais on a quand même beaucoup d'objets qui nous passent entre les mains et on finit par oublier qu'ils sont exceptionnels et que ce qu'on fait est quand même assez atypique. Et d'où l'intérêt, effectivement, après, de rencontrer les gens et de parler de ce qu'on fait, parce que c'est aussi à travers le regard des gens qu'on se rend compte de la spécificité et de la chance qu'on a de travailler sur des objets aussi exceptionnels et de la chance qu'on a de travailler dans un laboratoire comme celui-là et qui nous offre vraiment les moyens de rendre ces objets au public. Et
Êtes-vous chartrains toutes les deux ?
Non,
pas du tout.
Ouais. Est-ce que ça vous a donné un regain d'amour pour Chartres, le fait de travailler sur ces soubassements, sur ces vieilles Chartres qui sont au-dessus du Chartres actuel? Est-ce que vous éprouvez une tendresse nouvelle pour cette ville?
Moi, j'éprouve une tendresse particulière dans la mesure où je suis arrivée pour pouvoir travailler dans ce service. Donc, moi, je suis reconnaissante dans le sens où c'est grâce à Chartres et grâce à son dynamisme et grâce à son service archéologique que je suis là aujourd'hui et que je peux travailler sur tous ces objets. Donc oui.
Il y a beaucoup d'objets en réserve. Là, vous avez du travail pour...
Pour très longtemps. Non, déjà, il y a, 40-50 ans de fouilles à Chartres, où il y a du mobilier qui est sorti. Donc aussi bien des petits objets comme ceci, que des gros objets comme nous avons sur le site du Coudray au dépôt archéologique. Donc oui, nous, pour ce qui nous concerne, puisqu'on s'occupe beaucoup et essentiellement des petits objets fragiles, on a 60 mètres carrés remplis, hauteur sous plafond compris. Donc oui, il y a de quoi faire. Après, il y a des objets qui sont déjà traités, qui sont déjà restaurés, mais qu'il faut quand même surveiller, reprendre pour éviter la reprise d'altération et donc la dégradation. Et puis des objets qui sont sortis de fouilles au fur et à mesure des campagnes de fouilles, et puis qui ont fait l'objet soit de traitements sommaires, juste pour les identifications, ou soit de rien du tout, parce qu'on n'avait pas besoin à l'époque d'aller chercher à quoi ils ressemblaient. Donc oui, il y a beaucoup de travail.
Je m'adresse à tous ceux qui visiteront l'exposition. Vous ne croirez pas à vos dieux. Il faudra avoir une pensée pour vous parce que vous y avez beaucoup aussi travaillé. Vous m'avez dit que, évidemment, vous avez rénové, mais vous avez aussi mis les objets sur des socles. Et ça, c'est pas une mince affaire.
Oui, alors on a, pour cette exposition, on a passé avec Charlotte un mois à peu près à deux. Pour la restauration de ces objets. Et puis, alors on les a mis sur des socles, donc ce qu'on appelle le soclage, c'est-à-dire toute une réflexion sur la présentation des objets dans leur position d'usage, puisqu'il y a des petites figurines, par exemple, dont il ne reste que la tête ou la tête et le torse, et elles ont perdu leurs jambes, et pourtant, il faut arriver à les présenter debout. Donc c'est toute cette réflexion qu'on appelle soclage, et donc c'est avec Charlotte, on a mis à peu près une semaine à deux pour réaliser tous ces petits socles.
Eh ben, un grand merci à vous au nom des visiteurs qui iront à la Maison du Saumon. C'est tout au long de cet été. C'est une exposition à découvrir. On va vous laisser travailler. Mesdames, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies. Après ces longues années de guerre, le ciel est témoin qu'aujourd'hui, c'est grande joie pour la ville entière d'ouvrir ses portes à grand bruit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, nous nous sentions si petits. De vos bannières souffle un bon vent claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon noble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Je m'en vais porter en terre, au fond de notre vieux pays. Diane la douce aux cheveux clairs, dont je ne sais trouver l'oubli. Elle dormira comme en prière, du plus beau marbre que l'on vit. Sous la plus belle des lumières, de vos églises si jolies. Soit béni, il a fallu tant de terre pour
des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits.